Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de débuter comme chaque lundi la semaine en votre compagnie sur RFI, l'occasion comme chaque lundi de revenir sur le week-end écoulé qui a vu les couler la Maison Blanche. Le premier classico de l'année s'est soldé par la manita du Barça face au Real en Supercoupe d'Espagne. Grosse satisfaction évidemment pour les supporters Blaugrana, premier trophée avec leur nouvel entraîneur, nouvel entre guillemets, ça fait déjà quelques mois, Hansi Flick, l'idole de David Lortolari. Bonjour David.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. J'ai ramené mes calques par rapport à l'époque Bayern, on va pouvoir faire des comparatifs sans problème.
Exactement, ça fait très universitaire dit comme ça, on va pouvoir faire des études comparées, où il y a même un côté Startup Nation aussi. Vous allez avoir des PowerPoint, miam miam. Pour les Madrilènes, une petite consolation, Kylian Mbappé n'aura pas été le plus mauvais joueur français sur le terrain. Il faut dire que défenseur central, c'est un métier. Aurélien Tchouaméni devrait prendre des cours auprès des meilleurs. Radio Foot se propose d'envoyer Eric Rabé-Santratana lui prodiguer quelques conseils du côté de Madrid. Bonjour Eric.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Oui, je peux. Un petit peu. Voilà.
Avec moyennant.
En toute humilité. Moyennant rien du tout, juste pour lui...
Oh bah c'est...
Non, bien sûr.
C'est une affaire.
On est dans la transmission.
Aurélien, aujourd'hui. Si tu nous écoutes,
voilà.
C'est une affaire.
Aurélien, écoute RFI, s'il te plaît.
Bah, pas tellement là, parce que vu mon introduction, on va se fâcher. Ancien défenseur et capitaine du PSG, Eric Rabé-Santratana, Paris vainqueur face à Saint-Etienne hier en Ligue 1, grâce notamment à Ousmane Dembélé, qui s'impose comme le facteur X du club de la capitale française cette saison. Le facteur X de Radio Foot, il s'appelle évidemment Patrick Juillard, voilà. Un consultant heureux. Bonjour Patrick.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Votre Nice est virtuellement en Ligue des Champions ce lundi.
Ah bah écoutez, on reprend des couleurs en ce début d'année.
Et en rouge et noir, effectivement, vous pourrez faire pas mal de choses dans cette émission. Vous nous parlerez aussi de la Ligue des Champions en Afrique. Les clubs d'Afrique subsaharienne francophone sont d'ores et déjà tous éliminés de la course au quart de finale.
C'est pas réjouissant.
Ouais, alors qu'il reste une journée à disputer dans la phase de poule. Radio Foot préparé avec Pierrot Guérin, réalisé par Laurent Salerno. C'est parti.
Le Real Madrid mène 1-0.
Ce que réalise Kylian Mbappé est formidable.
Oh là là, Kylian l'a bien formado.
Yamal a répondu à Mbappé.
Es la mine, pero para Teleo. Es Yamal, pero ha recordado Messi.
Ah, ce match est dingue.
Le Barça est en train de corriger dans cette fin de première période du Real.
Un capitão, Rafinha.
Rafinha, doublé, 5 buts, Manita. Le Classico remporté par le FC Barcelone. La victoire 5-2 face à l'ennemi juré, le Real Madrid. Et un premier trophée pour Hansi Flick face à Carlo Ancelotti.
Les lourdes défaites font mal, les lourdes défaites face au grand rival font mal, deux lourdes défaites face au grand rival dans la même saison, ça fait encore plus mal. À l'inverse, infliger deux déroutes à l'ennemi juré en inscrivant deux buts sur ces deux rencontres, ça fait probablement très plaisir. Deux salles espagnoles, deux ambiances, les Catalans se sont réveillés heureux ce matin, les Madrilènes, eux, sont en pleine gueule de bois. Le Barça en avait déjà mis 4 au Bernabéu en Liga en octobre, il vient d'en passer 5 contre le Real en Supercoupe d'Espagne hier, à l'occasion du deuxième classico de la saison sur terrain neutre, cette fois en Arabie Saoudite. La joie d'un Catalan, Jules Koundé, le Français, lui, il a été bon.
Ce titre a une saveur particulière. Cela faisait un moment, une saison, que nous n'avions pas gagné de trophée, donc ça fait du bien. Encore plus dans un classico contre le Real Madrid. On a parfaitement appliqué ce plan de jeu, un peu comme au Santiago Bernabéu. On savait qu'on devait les presser et ne pas leur laisser des espaces, sinon c'est compliqué. Le premier but de Mbappé était contre le cours du jeu, mais on a gardé notre calme et on savait qu'en appliquant ce plan, on gagnerait.
5-2, c'est spectaculaire et ça permet de dépoussiérer l'armoire à trophée du Barça. Je ne sais pas si on avait tant besoin que ça. Hein. Le dernier triomphe, c'était la Liga 2023. Puis il y a pas mal de choses dans cette armoire, Eric Rabé-Santratana. Question, c'était un grand match du Barça hier ou un petit match, une déroute d'un Real hors sujet?
C'est un peu des deux. Hein. c'est un peu des deux. Le Real est quand même, il montre quand même des faiblesses défensives assez incroyables pour une équipe comme ça. Alors évidemment que le Barça a fait ce qu'il fallait pour les mettre en lumière, mais en dehors de ça, c'est ça qui est inquiétant du côté du Real, c'est d'être capable de sombrer autant défensivement dans l'équilibre du travail défensif. Et alors il y a du talent, hein, c'est pas le problème du talent, mais c'est le problème qu'il y a un vrai problème défensif du côté du Real, et qu'il va falloir le régler très très vite, parce que ils risquent pas de faire une saison comme ils font habituellement, où voilà, c'est un peu caché, puis derrière ils font des grandes saisons. Là, il y a quand même des gros problèmes.
Patrick Juillard, grand Barça ou petit Real, ou les deux?
Les deux. Alors, pour poursuivre d'abord ce qu'a dit Eric sur le Real, je pense que pendant tout le début de saison, les problèmes de l'effectif, de la faiblesse de l'effectif, et notamment dans le domaine défensif, ont été masqués par tous les débats sur l'intégration de Kylian Mbappé.
C'est vrai.
On ne parlait que de l'intégration de Mbappé. Est-ce que offensivement, ça fonctionne bien avec Vinicius et Rodrigo? Est-ce qu'avec Bellingham? Enfin, on ne parlait que de ça. Et sur ce plan-là, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. On voit de plus en plus de bons mouvements. On voit une coordination qui progresse entre les joueurs offensifs. Et en fait, une fois que les choses vont se mettre en place, parce que là, le talent, il est incontestable, que ce soit chez Bellingham, chez Mbappé ou chez les deux Brésiliens, je pense que c'est une question de temps, mais que ça va se mettre en place. Surtout avec la montée en puissance de Bellingham depuis 2 mois,
ouais,
qui est le leader de l'équipe et qui permet aux autres de s'exprimer beaucoup mieux. On voit en revanche que sur les autres lignes, le Real est en déconfiture, en dégringolade.
Mais alors comment on peut résoudre cette équation?
C'est difficile parce qu'il y a un problème d'effectif quand on n'est pas au complet. Quand par exemple il manque Militao, ça oblige Ancelotti à bricoler.
Quand Chouamini, il n'est pas fait pour jouer.
Au milieu, Kroos n'a pas été remplacé. Modric ne peut plus faire des gros matchs. Donc il y a un déficit de créativité et de liant. Donc tout ça est très... je trouve que ce n'est pas reluisant du tout. Et Ancelotti, il n'a que les yeux pour pleurer, hein, au final. Après, sur le Barça, je vais laisser la balle à mes coéquipes, mes confrères du jour. Mais le Barça, en revanche, c'est bien huilé. Et on voit la méthode Flick se mettre en place. Là.
On va d'abord repasser la balle à Carlo Ancelotti, qui pleure, selon vos propres mots. Vous n'êtes pas très loin de la vérité.
Oui.
Il parle aussi de Kylian Mbappé. Effectivement, une rare satisfaction dans un Real complètement hors sujet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son propre coach.
Nous avons fait un mauvais match de la première à la dernière minute. Et lorsque nous nous sommes retrouvés en supériorité numérique, nous n'avons pas été capables de trouver de solution. Mais ce n'est pas ce qui me fait le plus mal. Je suis triste de l'ensemble de ce que nous avons produit. Il n'y a rien à garder de la rencontre, si ce n'est la prestation de Kylian Mbappé. Il a bien joué et il a marqué. Le reste est à oublier. Nous devons regarder devant nous à présent.
C'est rare de l'entendre aussi dur en conférence de presse, Carlo Ancelotti, qu'on caricature comme le calinothérapeute des entraîneurs, le plus grand calinothérapeute de l'histoire du coaching, David Lortolari. Mbappé, c'est pas si mal, mais comme le rappelait Patrick Juillard, pour bien faire jouer Mbappé, il faut mettre peut-être 4 offensifs. Le problème, c'est que vous déséquilibrez votre équipe. Et si Mbappé, ça va, les autres Français, notamment un certain Tchouaméni, milieu reculé en défense centrale, ça va pas du tout.
Oui, alors Patrick le disait au fil des arguments et au fil des lignes qu'il a égrenées, on sous-estime complètement le besoin de réorganiser tout ça, de retrouver une hiérarchie peut-être aussi individuelle dans le collectif. Bellingham ne peut pas tout faire tout seul, même s'il l'a fait quelques mois au début quand il est arrivé. Il était passeur, buteur, milieu de terrain, offensif, relayeur et tout. Ça, c'est pas quelque chose qui peut durer. Kroos, Modric, Patrick l'a signalé, pour moi ça pèse, parce que vous devez quand même remplacer
Kroos au milieu de terrain. Franchement, c'est terrible, franchement.
Et oui, parce que vous perdez de la maîtrise, forcément vous perdez la gestion du rythme, et face au Barça qui est à la fois brillant collectivement et individuellement, vous êtes puni. Ancelotti, pour en revenir à la question question, Hugo. Il est touché à ce moment-là parce qu'il a une carrière immense, mais vous ne prenez pas quand même une défaite 2-5 tous les week-ends face à un adversaire qui est forcément un rival permanent.
Mais là, le problème, c'est qu'en l'occurrence, dès que vous affrontez le Barça cette saison, vous en prenez au moins 4.
Oui, alors.
C'est pas tous les week-ends, mais il y a un motif. Là.
Peut-être que Monaco aurait des arguments puisque Monaco avait battu le Barça, mais c'est l'un des rares accros barcelonais cette saison. Moi, j'insisterai davantage, je sais qu'on va y venir, sur la qualité de ce que présente le Barça aussi. Mais c'est vrai que face à un adversaire comme ça, les errements madrilènes, la difficulté à se... Alors, je n'irai pas à dire à se positionner, parce que ce sont quand même des joueurs d'un certain niveau. Oui. Mais vous êtes puni tout de suite. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord néanmoins sur ce qu'a dit Ancelotti sur pas bon de la première à la dernière minute. Et c'est en ce sens-là que je trouve qu'il est un peu radical dans son propos instinctif d'après match.
Un entraîneur qui l'est...
Oui, c'est ça.
Peu souvent, on n'est pas dans du Mourinho ou du Conte qui attaque ses joueurs tous les 4 matins.
Est-ce que ça veut dire, Hugo, qu'il est peut-être en manque de solutions à court et à moyen terme ? Je ne suis pas loin de penser que le Real a trop de travail pour vraiment arriver à ses fins en fin de saison.
En tout cas, ce qu'il n'a peut-être pas tout à fait réussi, Ancelotti, Eric Rabiot, Sandro Tana, vous avez envie d'en parler, c'est ce remplacement d'Aurélien Tchouaméni, donc milieu de terrain, à l'origine... En défense centrale, on a pensé que ça fonctionnait bien et peut-être que le match d'hier a été un immense et terrible révélateur pour lui, pour le joueur, pour Ancelotti, pour cette idée en général.
Ouais, alors il avait déjà eu on avait déjà vu qu'il n'était pas très à l'aise dans ce rôle-là. Il avait fait des matchs quand même intéressants, d'autres matchs plus intéressants, mais... Je pense que quand tu es milieu de terrain défensif et que tu dois jouer défenseur central, il faut déjà que tu aies une âme de défenseur dans ta façon d'aborder les choses, ce qu'il n'a pas du tout. C'est-à-dire que déjà dans son travail défensif de milieu de terrain, c'est pour moi pas un guerrier, Tchouaméni, c'est un mec qui défend, qui est devant la défense, qui a l'habitude de défendre à deux plutôt que tout seul. Et là, de le remettre... Alors, parce que... La différence avec le milieu de terrain, c'est que tu touches quand même beaucoup plus de ballons et que tu organises beaucoup plus le jeu, ce qui te permet aussi de briller autrement que défenseur central. Ta première tâche, c'est quand même de neutraliser les défenseurs adverses et d'être bon défensivement dans l'état d'esprit. Donc ça n'a rien à voir avec le projet de milieu de terrain. Et dans cet état d'esprit-là, je pense que Tchouaméni n'est pas fait pour être défenseur central. Peut-être dans le temps, avec un peu plus d'expérience et tout ça, mais je pense déjà quand même que dans ton âme déjà au départ, tu dois avoir cette envie de... Le défenseur, c'est un état d'esprit. C'est vraiment, tu es là pour annihiler, que ce soit l'attaquant en face ou toutes les actions qui vont arriver. Tu es déjà dans cet état d'esprit-là. Et Tchouaméni, je ne suis pas sûr qu'il soit comme ça au départ.
On rappelle qu'il y avait, il n'y a pas si longtemps, un certain Sergio Ramos dans la défense du Real.
Évidemment.
En termes de guerrier, alors j'aime pas trop les métaphores guerrières, mais ça se posait là.
C'est Rudiger qui a remplacé Ramos dans le rôle du guerrier. Ce qui manque, c'est plutôt un défenseur, un peu de temporisation, un défenseur de maîtrise, si je puis dire.
Et il y avait Varane avant, par exemple.
Varane était parfait en complément de Ramos. Là, je trouve effectivement, et je vais dans le sens d'Eric, Tchouaméni n'a pas les qualités requises pour le faire. Alors, on pourrait le penser, on pourrait se dire un milieu relayeur, ouais, comme ça.
Ça paraît toujours logique, mais non.
Qui a un trop mauvais pied, qui sait regarder le jeu, ça peut le faire, mais il n'a pas ce petit supplément de grinta et d'agressivité qui fait un grand défenseur. Ouais, que même un joueur pondéré comme Varane avait, que lui n'a pas.
Bon, on a surtout parlé du Real Madrid. Un dernier mot sur cette maison blanche qui a largement sali son maillot immaculé. Hier, le Real Madrid deuxième en Liga. Est-ce que, alors qu'on est à peu près à mi-parcours cette saison, est-ce qu'il y a un risque de dérailler un petit peu après ce qui aurait dû être dans un monde idéal un premier trophée pour lancer la deuxième partie de saison? Là, il y a peut-être quelque chose qui peut se casser avec ce classico de Supercoupe perdu de cette manière-là, David Lortolari.
Oui, et on en revient à ce qu'on disait sur la réaction à chaud de Carlo Ancelotti. Ça trahit peut-être quelque chose aussi. Est-ce que c'est un entraîneur qui a plusieurs ficelles, qui a plusieurs cordes à exploiter, mais j'ai pas la sensation là. les absents, concrètement, il n'y a pas une ribambelle de blessés, il n'y a pas. C'est simplement la transition par rapport à la saison d'avant, la transition par rapport à l'équilibre en âge aussi de l'effectif de la saison d'avant. Et moi, j'ai l'impression que sur ce plan-là, Ancelotti ne peut pas faire de miracle. Alors après, est-ce que le fait qu'il y ait un match à 3 avec l'Atlético de Madrid et avec le Barça ne peut pas servir le Real aussi? Ça, on verra en championnat dans les prochaines semaines, mais je ne suis pas hyper optimiste par rapport à ce qu'ils ont montré hier, en tout cas.
Alors, petit rectificatif, le Real a déjà remporté un trophée cette saison, à savoir le Mondial des clubs, mais ça aurait été le... Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Non, mais oui.
Ce n'est pas le plus grand trophée. Non, ouais. Disons que ça aurait peut-être lancé les trophées vraiment de 2025, on va dire, de remporter la Supercoupe. Un dernier mot, Patrick ou Eric, sur... l'avenir, entre guillemets, proche du Real, à l'aune de cette défaite.
Ce qui m'intéresse, là, c'est le mercato, puisque je trouve que le Real manque de profondeur de banc, manque de qualité et de quantité, même dans son effectif, à certains postes. Ça oblige à du bricolage avec Tchouaméni, avec Lucas Vazquez. Et il ne serait pas, à mon avis, superflu de faire un ou deux achats, s'ils le peuvent, et si c'est possible, via le fair play financier. Mais pour moi, il faut qu'ils agissent, là, c'est...
Allez, on va
rester passif, quoi.
On va parler du Barça, un club qui a un peu plus de mal en ce qui concerne l'arrivée des joueurs, l'homologation de leur contrat. Ce serait un sujet en soi. Le Barça, auteur tout de même d'un début de saison séduisant, qui a un peu calé ensuite ce Barça version Hansi Flick depuis l'été dernier, l'entraîneur allemand, troisième de Liga à l'heure où on se parle, mais qui vient donc de remporter la Supercoupe brillamment. Peut-il, grâce à ce succès, ce trophée, relancer sa machine catalane? Hansi Flick, on l'écoute.
Ce match était absolument dingue. Je pense que nos supporters, et surtout ceux qui étaient au stade, l'ont apprécié. Du côté des entraîneurs, ça n'était pas vraiment la même chose, mais au final, le résultat est incroyable. On ne regarde pas en arrière, si ce n'est pour tirer des leçons sur ce que nous devons améliorer. Nous voulions jouer de la même façon que nous l'avons fait à Madrid lors du dernier Classico. Mes joueurs se rendent compte de leurs possibilités. Ils savaient qu'ils pouvaient remporter ce titre.
4-0, je le rappelle, le Classico en championnat d'octobre. 5-2 hier en finale de la Supercoupe d'Espagne. Hansi Flick, il est capable de ça. Vous le connaissez bien, évidemment, l'entraîneur allemand qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, notamment brillamment en 2020, David Lortolari. Hansi Flick, est-ce qu'on a vu du très bon hier? On peut voir du très bon lors des très grands matchs. Il y avait aussi une victoire à Munich sur ses anciennes terres. Oui. Mais son Barça n'est que troisième, donc on voit aussi du un peu moins bon. Où est-ce qu'il va se situer sur cette deuxième partie de saison? Et est-ce que son Barça, à l'inverse du Real, peut s'appuyer sur le match d'hier?
Ouais, c'est la difficulté dans l'analyse, parce que la jurisprudence Bayern, quand il était entraîneur du Bayern cette saison, où il a tout emporté sur son passage avec une impression de puissance, une impression de force collective, une impression que les individus empilaient leurs qualités et que ça faisait une espèce de monolithe impossible à casser. L'aura-t-on à Barcelone? On peut pas le savoir tout de suite, parce que pour l'instant, effectivement, il y a des coups magistraux contre des grosses équipes. Et en l'occurrence, la victoire d'hier tactiquement n'est pas la même que la victoire contre le Bayern, parce que contre le Bayern, le Barça avait exploité sa vitesse dans les 50 mètres qui étaient dans le dos des défenseurs du Bayern. Là, c'était tout à fait différent. Mais dans les deux cas, c'est un gros adversaire et Flick a parfaitement emmené son équipe sur ses gros matchs, sur ses matchs, ses points d'orgue de la saison. La petite incertitude qu'on a encore, avec le Bayern, ça avait marché. Avec le Barça, est-ce que ça va marcher? C'est sur la longueur, la constance d'une saison, est-ce qu'on peut marquer les 3 points systématiquement contre des équipes de milieu de tableau, de bas de tableau? Hugo, c'est ça qui fait que le Barça n'est pas en tête aujourd'hui du classement, parce que sur ce qu'il montre face à des grosses équipes, on a la sensation, comme les confrères l'ont constaté au stade hier, que ça peut faire très mal contre des grosses équipes. Peut-il faire aussi mal toutes les semaines, 2 fois par semaine, contre des équipes moyennes? Ça, c'est avec la jeunesse d'un effectif, un Yamal, un Rafinha. Ces joueurs-là veulent-ils autant briller contre des équipes plus faibles? Ça reste encore à démontrer sur la longueur d'une saison.
Mais donc, il y a une certaine frustration, parce que quand on voit ce que ces talents et ce que cette équipe peut produire, on se dit qu'elle devrait peut-être être la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle.
Le problème, il est qu'il y a beaucoup de matchs et que la répétition des matchs, tu ne peux pas faire jouer toujours les mêmes. Donc du coup, à un moment donné, ta profondeur de banc fait que est-ce que tu as la même qualité derrière sur les mecs qui vont rentrer, ou la même détermination des mecs qui vont rentrer? Il y a une question aussi de ce côté-là, mais j'ai quand même l'impression que ce Barça-là est quand même, pour moi, plus équilibré que ce Real qu'on a vu et qu'il y a peut-être quand même plus de chances de profiter justement de cette dynamique de victoire pour aller chercher bien meilleur classement pour la suite du championnat.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se trouve face à une équipe plutôt en début de cycle. Et une équipe en début de cycle, on ne sait pas encore jusqu'où elle peut aller. On ne sait pas encore individuellement jusqu'où chaque joueur peut aller. On ne sait pas jusqu'où collectivement elle peut aller. Alors que le Real, on a l'impression que c'est une fin de cycle. Et que les investissements nécessaires au besoin de tourner la page, notamment au milieu, n'ont pas été faits. Donc on est un peu dans un entre-deux. Le Barça, avec les moyens un peu limités, qui sont ceux du club, je trouve qu'ils se débrouillent pas mal. Ils sont bien aidés par leur centre de formation. Il y a plusieurs joueurs de la Masia qui prennent de l'épaisseur dans cette équipe. Et puis, moi, je trouve le trio offensif, les deux ailiers, là, Rafinha et Yamal, et puis Lewandowski, c'est exceptionnel.
Ouais.
Ils sont à plein régime, ils carburent, ils sont à pleine carburation, alors que le Real... On a l'impression qu'il tourne sur deux ou trois cylindres et pas sur quatre. Hein. Sans parler d'un V6, mais je compte par rapport au nombre d'éléments offensifs, bien sûr. Donc, il y a un peu des ratés au Real, alors que le Barça, sur ce plan-là, ça reste vraiment... Le Real, c'est rare de voir tous les offensifs jouer bien en même temps, en fait.
Bon, il faut quand même rappeler qu'en Liga...
Le Barça, c'est un tout. C'est les trois, ça fonctionne. Quoi.
Il faut rappeler qu'en Liga, ce n'est ni le Real, ni l'Atlético, ni le Barça qui sont en tête. Ils sont deuxième et troisième, respectivement. Et c'est l'Atlético de Madrid qui domine les débats. Le premier trophée domestique de la saison, il est néanmoins pour le Barça. Un dernier mot, peut-être, David Lortolari. La Supercoupe d'Espagne, ce n'est pas exactement le trophée le plus scruté de la saison au niveau international. Le remporter de cette manière-là pour le Barça, forcément, il y a trophée et trophée. Il y a Supercoupe et Supercoupe.
Oui, et puis ça va donner des idées pour compléter la saison. Je pense que ça peut être aussi par rapport à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire ces joueurs-là, les Rafinha, les Yamal, Lewandowski, lui, a toujours de l'appétit parce que sinon, il ne serait pas à ce niveau-là à son âge, va donner de l'idée pour aller chercher d'autres trophées en fin de saison. Ils veulent du clinquant, du brillant, les Barcelonais, on a l'impression... Quand même, Hugo, l'Atlético de Madrid, c'est une série de victoires 14, je crois, consécutives.
Alors, j'ai pas noté parce qu'on n'avait pas prévu d'en parler. Non, du coup, là, vous posez une colle en direct, je ne vous remercie pas.
C'est pour vous dire qu'il va y avoir de l'adversité, ne serait-ce qu'en Espagne, sans parler de la Ligue des Champions.
La Liga n'est pas tant en déclin qu'on le disait ces dernières saisons. Nos auditeurs, eux, ils ont du talent et des avis. Ils ont réussi leur classico, j'en suis certain. Un rendez-vous qu'ils adorent, cela dit. Certains sont heureux, forcément, et d'autres, beaucoup moins, c'est le jeu.
C'est dur d'être des petits chasseurs. La seule équipe qui a la clé du milieu, le Real de Madrid, c'est le Barça. Les joueurs comme Tchouaméni, Camavinga ont montré leurs limites. Les grands temps du Balaé, la cour.
C'est Manuel Kendrick de Metogo. Ce que j'ai reçu du match d'hier, c'est la maîtrise totale de l'équipe du Barça dans tous les compartiments du jeu face au Real Madrid. Que ce soit la défense, que ce soit le milieu de terrain, que ce soit l'attaque, ils ont été présents sur toutes les lignes. Et surtout, cette super passe de Jules Koundé pour Rafinha. Bravo français Jules Koundé pour ce match qu'il nous a livré hier. Il est arrivé à maîtriser Vinicius Junior sur cette ligne.
Je suis nouveau à Al-Souri, je suis précisément au Mali, à Bamako. Et on a bien regardé un match vraiment extraordinaire. Barça, c'est une équipe qui a vraiment joué le football, nous montrer comment voilà, le foot doit y être. Vraiment, on est vraiment fiers, on est vraiment contents de l'équipe barcelonaise. Rémi, je pense que désormais vous allez supporter Barça. Je pense que vous allez changer de maillot ce soir.
Bonjour, je suis Marvin depuis Libreville, le Gabon. Alors, je donne toute la responsabilité et la faute au coach du Real Madrid pour n'avoir pas aligné une équipe compétitive pour affronter un Barça en feu. La responsabilité est donc au coach.
Une petite pour Ancelotti, une autre pour Rémy N'Gono, hein, si vous avez bien écouté ce mix
auditeur. Il répondra vendredi sans doute.
Exactement, Rémy N'Gono qu'on retrouve dans le Café des Sports avec Annie Gasnier, Xavier Barré évidemment, et sur France 24 également, pas seulement sur RFI, le Café des Sports de Radio Foot. Le lundi, vous avez la parole, comme le vendredi. D'ailleurs, petite note vocale sur WhatsApp et le numéro que vous retrouverez évidemment sur notre page Facebook, la page Facebook de Radio Foot International. On continue.
Dembélé face à Léo Petro maintenant. Dembélé, le pied gauche pour tenter. Il en faut peu avec un joueur de cette qualité-là. Ousmane Dembélé en forme flamboyante dans ce début d'année. La VAR a expliqué qu'il y avait donc pénalty. Et donc ce sera Ousmane Dembélé pour aller chercher, pourquoi pas, un dixième but cette saison.
J'ai toujours été comme ça. Voilà, maintenant que ça rentre, c'est bien. Ouais, c'est continuer comme ça. On a eu beaucoup d'espace, je pense qu'on pouvait marquer deux ou trois buts de plus. Mais bon, c'est comme ça, on est content de repartir avec les trois points.
On se délance très fort. Et le but pour le Paris Saint-Germain grâce à Dembélé.
Du Samen Dave et du Ousmane Dembélé pour passer à notre page Ligue 1 dans Radio Foot avec Eric Rabé, Sandra Tana, Patrick Juillard et David Lortolari. La 17e journée du championnat de France qui s'est donc refermée par le succès du PSG, leader intouchable hein, évidemment de la Ligue 1. 2-1 à la maison contre Saint-Etienne, un mal classé. C'est sympa, de la bonne musique, des bonnes performances de Dembélé. Sauf que en fait, 2-1 à la maison contre un mal classé, dit comme ça, c'est pas extraordinaire, ouais. Mon cher Eric Rabé, Sandra Tana.
C'était pas extraordinaire, comme le match n'était pas extraordinaire. La première mi-temps était intéressante, la deuxième soporifique. Je sais qu'on va parler de Dembélé, mais j'ai envie de vous dire que s'il ne marque pas ses deux buts, pour moi, je vous dis, il était nul hier. Mais vraiment, c'est assez hallucinant de pouvoir dire ça. Mais vraiment, hier, sur sa prestation d'ensemble, il n'a pas réussi grand-chose. Il marque quand même deux buts. Donc, c'est difficile de faire un constat
peut-être
comme ça.
Peut-être parlons de Dembélé tout de suite. C'est presque l'inverse de ce qu'on lui reprochait depuis le début de sa
carrière.
Donc,
c'est pour ça qu'on ne va pas se plaindre.
De ne pas être mauvais et d'être mauvais dans les derniers gestes.
C'est le cinquième but qu'il met en 4 matchs ou 5 derniers matchs.
En tout cas, il en est à 11 buts, 7 passes décisives cette saison. Ce qui en fait un joueur capable de faire la différence, ce qui n'a pas toujours été le cas malgré son immense talent.
Exactement, on l'attendait dans ce rôle-là et il le remplit aujourd'hui, et tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, en dehors de ça, la prestation, elle est pas aboutie du tout. Mais je préfère qu'il marque des buts et qu'il soit nul que ce soit l'inverse, qu'il soit très bon et qu'il marque pas de but.
Bah alors, est-ce que c'est vraiment ça l'enseignement de ce match, le PSG que Luis Enrique voulait ultra collectif est en train de se trouver un facteur X, un joueur qui fait un peu le travail à lui tout seul,
ouais,
personne de Ousmane Dembélé.
Vous l'avez dit, il est sur les temps de sa meilleure saison en club. C'était à l'époque où il était encore à Rennes avant de partir à l'étranger. Ça veut dire qu'il a un petit peu entre guillemets réglé la mire, on l'a vu hier soir, mais ça reste un joueur extrêmement frustrant, c'est-à-dire qu'il tente beaucoup mais il y a beaucoup de déchets.
Il peut en mettre deux de plus, facile.
Et donc, au final, si on doit faire une comparaison poste pour poste, je trouve qu'un joueur comme Kingsley Coman, au final, est un joueur qui apporte plus à son équipe. Ses stats ne sont pas forcément très supérieurs, mais globalement, il est plus fiable. Donc, Dembélé reste un joueur extrêmement frustrant. Après, sur le plan du collectif, l'élément, à mon avis, le plus intéressant qu'on ait vu, c'est le repositionnement de Kangin Lee au milieu. Vrai, contre une équipe du niveau de Saint-Etienne, je trouve qu'il a été dans le bon tempo. Peut-être que contre les très gros, ça ne suffira pas. Mais là, c'est une solution qui mérite peut-être d'être revue et creusée. À part ça, on n'a pas appris grand-chose. Parce que Saint-Etienne, malgré sa bonne volonté, bien que sur la fin de match, il y a eu quelques petits frissons. Mais ça reste une équipe convalescente qui est aux mains d'un nouvel entraîneur qui est en train de se reprendre un peu. Déjà, qui prend plus de gros cartons comme elle prenait il y a encore 2-3 mois.
Il y avait des bonnes intentions, quoi.
Je pense qu'ils ont les moyens de se sauver en Ligue 1. Mais après, faire plus, je ne sais pas. Donc le PSG, ça suffit en fait. Il a trop de marge en Ligue 1 pour être inquiété comme ça, quoi.
Pourquoi autant de gentilles intentions pour David Lortolari? Vous dites du bien de Kingsley Coman, vous dites du bien de Saint-Etienne.
C'est la politesse légendaire de Patrick.
Tout à l'heure, vous lui avez passé la balle sur le Barça. Voilà. Il y a quelque chose qui... Il y a un arrangement entre vous deux. On va, va essayer de, d'investiguer David Lortolari. Alors, on va laisser Saint-Etienne, hein, votre club de cœur, de côté. On espère qu'ils vont se sauver. Vous m'accorderez que ce n'est pas le plus grand club, la plus grande équipe de Ligue 1 à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes un peu surpris de voir Paris ne pas avoir eu un peu plus de marge hier face à cette équipe? Vous allez aussi nous parler de Dembélé. Après tout, l'Allemagne, c'est l'un des rares pays où il a brillé de mille feux. Une saison à Dortmund, il y a déjà pas mal de temps. Et puis, si vous voulez, vous pouvez prendre la comparaison avec Kingsley Coman. Ça vous fera trois sujets sur lesquels réagir.
Oui, Dembélé, effectivement, il était brillant en Allemagne parce que c'était les premiers mois. Et Ribéry, c'était pareil. Je me souviens, quand il arrive la deuxième saison, les défenseurs le serrent de très près. Et la deuxième saison, il baisse avant de rebriller ensuite parce qu'il prend la mesure de l'adversité. Dembélé, ça a été pareil à Dortmund. Au début, c'était génial parce qu'il avait de l'espace. Puis après, il y a un deuxième cap à passer. Là, j'ai la sensation, moi, sur ce qu'on a vu hier. Gonzalo Ramos en pointe. Barcola, blackout. J'ai la sensation que les adversaires à venir doivent se frotter les mains, les gros adversaires à venir doivent se frotter les mains parce qu'ils doivent se dire « Je mets deux défenseurs sur Dembélé et je règle la situation. » En gros, c'est un peu ça. Parce qu'effectivement, Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui peut apporter de la valeur ajoutée, une étincelle, un éclairage soudain. Oui, une surprise. Après, pour la question par rapport au score étriqué, Hugo, je suis quand même un peu, pas étonné, mais pas forcément très optimiste par rapport à ce que peut produire le PSG de plus que ça. Eric a sans doute raison que dans la tête des joueurs, on se contente, on va faire juste la gestion pour gagner ce match-là et rester tranquillement devant au classement. Mais ensuite, la difficulté, et le PSG l'a éprouvé plein de fois sur les dernières années, et on peut remonter assez loin, c'est-à-dire... Vous maîtrisez votre affaire en championnat contre une équipe comme Saint-Etienne. Comment vous faites pour hausser votre niveau contre Manchester City dans le prochain match à domicile?
Eh bien justement, on y vient parce qu'effectivement, les matchs du PSG nous intéressent moins pour ce qu'ils peuvent induire au niveau du classement de la Liga. On va en parler, mais là, c'est assez confortable. 6 points d'avance sur le premier poursuivant pour Paris. C'est évidemment la Ligue des Champions, les échéances, oui, c'est bien ça, de janvier, et cette tentative de se qualifier via un trou de souris pour, en tout cas, de sortir de la phase de ligue, le premier tour. Est-ce qu'il y a des progrès et donc des motifs d'optimisme par rapport à ça, Eric Kerbe et Sandro Tana?
Alors, il y avait quand même un turnover, parce que tu as quand même Beraldo en défense. T'as,
Mayulu au milieu.
Tu as Mayulu qui était très intéressant, Mayulu, dans le jeu. Alors, ça reste un jeune, mais je trouve que dans l'état d'esprit, dans ce qu'il a produit hier, c'était pas mal. Mais voilà, Beraldo en défense, Hernandez qui a besoin de temps de jeu aussi, qui revient, qui a fait son match sans être brillant, mais qui voilà, et il a besoin de retrouver cette compétition aussi. Donc là, on est aussi dans une composition qui est différente. Vitinha, quand tu regardes le banc de touche, Marquinhos pas du tout là, Vitinha pas de chaud sur le banc de touche avec Neves.
Zaïre Emery, mais bon.
Il y avait beaucoup de roulement quand même hier, donc. C'est des joueurs qui jouent quand même. Il y a Ruiz à jouer. C'est des joueurs qui jouent. Mais on était quand même dans une approche de match déjà un peu en décalage par rapport à ce que peut faire habituellement Enrique, qui garde quand même toujours une certaine base.
C'est une manière polie de dire que le PSG était un petit peu en gestion.
Le problème, c'est que derrière.
Ça fait partie de la gestion d'une saison.
Après, ça se comprend évidemment, puisqu'il y a beaucoup de matchs sur le mois de janvier aussi.
Allez, fair enough, comme disent les Anglais. Paris leader du classement de Ligue 1 avec 6 points d'avance, je le disais, sur son principal concurrent, Marseille, en l'occurrence Marseille qui enchaîne.
Premier contact, Greenwood face à Truffert. Greenwood, le petit centre, il n'est pas Maya Rabiot. Magnifique action encore marseillaise et la conclusion de Monsieur Rabiot sur cette passe magnifique de Mason Greenwood. 8 victoires à l'extérieur, l'OM qui consolide sa deuxième place.
Deuxième place avec 7 points et non pas 6 de retard. Il veille au grain, l'ancien défenseur du PSG.
Et presque 8 avec la différence de but. Hein, mais bon. on va pas faire les rabat-joie.
Est-ce que vraiment ça ferait une énorme différence à la fin de saison? Je suis vexé, tant pis pour vous. Succès de 1 Rennes, donc de l'OM dans le Sampaolico, on peut l'appeler comme ça, les retrouvailles entre l'entraîneur argentin, désormais à Rennes, et l'OM, qu'il avait mené.
Mandanda, mais non, il ne jouait pas. C'est pas
ça marche pas bien, ça.
Bah,
ça
le Brice Sambaïko, à ce moment-là, Sampaoli, qui avait offert, qui avait mené, guidé à la deuxième place l'OM. Il y a peu, l'OM enchaîne un septième match sans défaite, 6 victoires et 1 nul sur cette série. C'est un troisième succès de rang, avec 11 buts marqués sur cette série. Marseille qui profite aussi des nuls de Monaco et de Lille pour s'installer confortablement, donc on le disait, à la deuxième place du championnat de France. 5 points, là je pense que je ne me trompe pas, 5 points d'avance sur le troisième Monaco. L'OM, Patrick Juillard, c'est un dauphin hyper tranquille.
Hyper solide en fait, c'est-à-dire que quand on regarde les matchs de l'OM chaque semaine comme je le fais, on n'est pas toujours transporté d'enthousiasme par le jeu produit. Il y a des moments un peu mous, des phases un peu molles dans un match, mais ils gèrent bien les temps faibles, ils ne sont pas trop en danger et ils savent brutalement accélérer, sortir un peu de leur petit ronron. Et là, ils font très mal parce qu'il y a des joueurs... Rabiot, qui est depuis le dernier rassemblement des Bleus, a trouvé vraiment
son poste
et la bonne expression, le bon lien avec Højbjerg, qui est un peu un meneur de jeu reculé. Greenwood, qui est le facteur X, c'est le joueur qui fait des différences inattendues au moment où il sort un peu comme un diable de sa boîte et il frappe. Et voilà, Mopé qui est un peu empoisonnant pour les défenses, qui dégage pas mal d'espace. Donc tout ça, ça fonctionne. Il y a aussi des gros points faibles, à mon sens, surtout sur les côtés. Et ça, je pense que à la longue, ça empêchera, à mon avis, l'OM d'aller très très haut s'ils ne font pas des ajustements au mercato. Et voilà, ça fonctionne bien. Et c'est De Zerbi a trouvé la bonne carburation. C'est-à-dire qu'il y avait quelques flottements, c'était un peu irrégulier en début de saison. Et là, l'équipe a trouvé vraiment un ciment, une base solide, quoi.
Et le point d'orgue de ses flottements, c'était la défaite à domicile contre Auxerre. Il avait même mis son poste en jeu en conférence de presse de Zerbi. Et depuis, 7 matchs pour 6 victoires et 1 nul. David Lortolari, on a égrené quelques noms, et notamment ceux des buteurs du week-end, Greenwood et Rabiot, avec de telles individualités. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur un train qui arrive à l'heure? Trop loin du PSG, certes, mais aussi loin de l'autre concurrence pour l'OM.
Oui, surtout à partir du moment où vous avez des individus là-dedans, l'entraîneur doit en faire partie au premier chef, qui se convainc qu'on peut tout donner sur le championnat, en quelque sorte. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est ce bilan à l'extérieur qui est dingue. De Marseille, c'est 8 victoires.
C'est ce qui fait la différence.
Et ils ont marqué 5 buts plus à l'extérieur que le Paris Saint-Germain. À domicile, oui, alors c'est moins bien. Cette sensation qu'il y a à la fois cette force collective dont parlait Patrick et effectivement les individus qui peuvent comme ça apporter du plus. Oui, à partir du moment en plus où Hugo, Monaco faiblit régulièrement dans la saison, au moment où on l'attendrait à s'installer dans une constance, il n'y a que Marseille qui peut être dauphin pour moi.
Mais Eric Rabessandratana, est-ce que l'OM est à l'abri? Les individualités, peut-être le système ou la solidité dont parlait Patrick, est-ce que l'OM est à l'abri des baisses de régime que peuvent connaître Monaco, Lille, Lyon, peut-être Nice, qui sait?
Je pense pas, puisque j'ai quand même l'impression qu'ils ont trouvé leur carburation. Il y a quand même des résultats réguliers, ce qui est la difficulté, elle est là en fait pour l'OM, pour Monaco, dans la comparaison du Paris Saint-Germain. Sur des petites équipes, ils ont toujours des accros ils font toujours des résultats qui font que aujourd'hui Monaco se retrouve dans cette situation parce que cette équipe-là n'est pas capable de gérer justement ces matchs-là, les soi-disant petits matchs qui font que c'est ceux-là qui te permettent de rester au contact. Donc là aujourd'hui ils ont quand même 5 points d'avance, c'est quand même pas mal. Maintenant, on va voir avec l'affrontement direct avec les gros de leur zone, j'ai envie de dire.
Et on rappelle que Marseille, parmi toutes les équipes qu'on a citées, est la seule qui n'a que le championnat à gérer, en tout cas pas de Coupe d'Europe, et la Coupe de France, mais en tout cas pas de Coupe d'Europe.
Ouais. Pour l'instant.
Ça fait peut-être aussi une petite différence derrière l'OM. Donc on a dit Monaco à 5 points, et Nice, 4e à 6 longueurs. Nice qui vient embêter ses voisins et rivaux. les rivaux de la Méditerranée, de la Côte d'Azur, Nice qui dépasse surtout Lyon et Lille, qui ont mal géré leur week-end, et qui prend la place du LOSC au classement à la quatrième place. Et ça voudrait dire, cette quatrième place...
Un tour préliminaire de Ligue des Champions.
Voilà, c'est synonyme de Ligue des Champions. On n'est pas encore là, il faudra attendre la fin de saison, il faudra rester là jusqu'à la fin de saison. Mais la magie franquaise opère, et ça, ça vous fait plaisir, vous le Nice soit de Radio Foot, Patrick Juard.
On dit vraiment à Nice qu'il fait de petits miracles en Ligue 1, puisque... Bon, autant en Coupe d'Europe, là, la campagne niçoise a malheureusement été assez catastrophique. Mais en Ligue 1, il fait de petits miracles parce qu'il y a eu beaucoup de blessés sur la première partie de saison. Ouais. Il n'a pratiquement jamais pu compter sur un effectif complet. Et d'ailleurs, il y a des blessures de longue durée de joueurs qui n'ont même pas commencé la saison, comme Morgan Sanson ou Terem Moffi. Donc, il bricole, mais il le fait bien. Il y a quelques bons coups de la cellule de recrutement, notamment Ali Abdi, qui est un formidable contre-attaquant sur son côté gauche, qui peut jouer... À tous les postes du couloir et qui est assez bluffant quand il joue. Guessant, qui a fait beaucoup de progrès en attaque, l'international ivoirien, qui en est à 9 buts. Si
c'est
je
un
me
peu lui le chouchou et le facteur X.
Le joueur qui a vraiment apporté une certaine magie à ça, c'est lui, qui met des buts un peu venus d'ailleurs. Et alors, c'est une équipe qui est sujette à des sautes de concentration. Souvent, elle prend un but après en avoir marqué un. Il y a du relâchement dans cette équipe, c'est pas parfait. C'est pas infaillible, mais c'est enthousiasmant. Et au final, si on regarde les chiffres, il n'y a que 3 défaites sur la phase aller, ce qui est un rythme d'équipe qui va jouer la Ligue des Champions. Donc il faut corriger ce qui ne va pas et garder cet enthousiasme et cet talent offensif. Certains Niçois disent, depuis Lucien Favre, on n'avait pas pris autant de plaisir à voir jouer l'OGC Nice, donc pourvu que ça dure.
Francaise, qui a fait des miracles du côté de Lens, et qui est cité pour prendre la... succession en 2026 de Didier Deschamps, il jouit d'un certain crédit et il prouve de nouveau son talent de coach, David Lortolari.
Oui, parce qu'il faut pouvoir reproduire. Alors reproduire, en fait, c'est pas ça, c'est que vous adaptez à votre écosystème, à votre environnement, mais il reproduit les belles choses qu'on avait vues précédemment. Je crois que Nice serait bien inspiré, effectivement, de profiter des errances des gros clubs, entre guillemets, qu'il y a autour, parce que Lille, il y a une accumulation de matchs.
Il joue tous la Coupe d'Europe, en plus.
Oui. Je commentais Lille contre Auxerre vendredi soir.
Il reste encore un peu de Coupe d'Europe à jouer pour
Nice.
qui n'a pas beaucoup joué.
On y croit pas.
Qui s'est relativement économisé.
Contre des clubs scandinaves. Bon, je pense que ça, l'élimination leur prend au nez.
Nice a été assez mauvais.
Ça va être du laboratoire.
Sur la Coupe d'Europe. Bon, on va les laisser là, les aiglons. En tout cas, c'est pas mal. Quatrième pour l'instant après 17 journées. Francaise, il a peut-être quand même un petit peu de temps pour regarder ce que fait son ancien club. Lens qui ne se porte pas si mal sur le terrain. C'est un peu plus compliqué en coulisses. Il y a de l'argent qui vient de rentrer. La vente de Kuzanov, le défenseur ouzbek à Manchester City. Alors ça, c'est une bascule extraordinaire.
Fois 500, c'est ça.
Peut-être les sons et or ont-ils découvert une nouvelle pépite et se préparent à une nouvelle plus-value. Ce serait du côté de leur attaque cette fois. Ah.
Le centre de Sotoka, qu'il est bon ce centre de Sotoka pour Godwin Koyalipou. Les présentations avec la Ligue 1 sont faites. Première apparition dans l'élite, premier but, adaptation. Express.
Godwin Koyalipou, il a 24 ans, formé en France, passé par la Suisse, la Belgique, la Bulgarie. Et oui, il était au CSKA Sofia il y a peu. Je pense que vous ne le connaissiez pas tant que ça. Peut-être vous, Patrick, parce que cet ancien international français U18 et U19, il est né à Bangui et il porte en sélection les couleurs de la Centrafrique. Cette sélection, un but avec les Fauves, un but, un match, ou plutôt l'inverse, en Ligue 1. Est-ce qu'on est là face à peut-être une sensation africaine dans le championnat de France ?
On va attendre un peu. Alors, c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts partout où il a joué, mais souvent dans des championnats...
En Bulgarie, il tournait à quasi un but par match.
Voilà, en D2 belge, c'était un but tous les deux matchs à peu près. Donc, c'est plutôt des bonnes stats, évidemment. Il faut attendre. Le but qui marque, c'est un vrai but de renard des surfaces, parce qu'il arrive à se, sur un centre un peu en cloche de Sotoka, il arrive à se faire oublier, à faire les petits pas qui le démarquent de son défenseur et à placer une tête lobée tout en retenue, mais qui a totalement trompé le gardien adverse. Donc c'est pas mal. J'attends de le voir quand même, parce qu'il faut savoir que Lens, depuis le départ d'Openda
Et voilà, il y a peut-être le meilleur n'a des jamais, contextes.
Lens n'a jamais su trouver le joueur pour remplacer et faire oublier Openda. Wai, ça n'a pas fonctionné. Et Nzola, qu'on a vu souvent seul en pointe sur la première partie de saison, ça n'a pas fonctionné. Pour moi, il n'est pas fait pour être seul en pointe. Koyalipu, d'accord, peut-être qu'il a un peu plus les qualités de joueur d'effort qu'avait Openda. Donc, on va voir sur la durée, mais le début est réussi en tout cas. Et même si avant le but, il rate une grosse occasion en ratant le ballon, mais ça arrive. Mais il se reprend bien.
Eric Rabessandratana, on souhaite bon courage donc à Godwin et Koyalipu.
Bien sûr,
c'est pas rare. C'est pas rare. Après, c'est plutôt rare.
Ce qui est difficile, c'est de prendre la relève de ceux qui étaient là avant. Oui. Pas Wai, je parle pas de Wai. Mais
vous passez de la Bulgarie à Lens et vous marquez vos premiers matchs, c'est pas banal.
C'est une évolution et il n'y a jamais de hasard. Donc voilà, on lui souhaite d'avoir la même dynamique et d'avoir la même réussite sur le reste de la saison.
Allez, on continue à parler de football africain avant de se quitter. C'est le temps additionnel de Radio Foot. Patrick Juillard, il ne fait pas très bon suivre les clubs d'Afrique subsaharienne francophone cette saison en Ligue des champions africaines. Pas seulement cette saison, d'ailleurs, disons que là, c'est un petit peu caricatural.
Là, c'est encore pire. Là,
oui. Il reste une journée de phase de groupe dans cette Ligue des champions, une journée à disputer, mais les Congolais du TP Mazembe et de Maniema, les Ivoiriens du Stade d'Abidjan ou encore les Maliens du Djoliba sont d'ores et déjà hors course.
Tous à la trappe,
pas de quart de finale pour eux. L'Afrique subsaharienne francophone, entre guillemets, à la rue, avec toujours cette prédominance de l'Afrique du Nord, globalement, pour les places et pour la victoire finale.
Effectivement, alors la locomotive des clubs que vous avez cités, c'est le club à la fois le plus expérimenté et le plus structuré, c'est le tout-puissant Mazembe.
Demi-finaliste l'an passé, si ma mémoire est bonne.
Mais cette année, le TP Mazembe est frappé par une interdiction de recrutement, donc doit faire avec les moyens du bord et avec souvent des jeunes joueurs peu expérimentés. Donc, évidemment, ça montre ses limites, même si Lamine Diaye a fait ce qu'il pouvait. Ils n'ont pas fait un mauvais match à Alger. Ils ont fait un match volontaire, courageux, mais c'est un peu limité. L'anecdote qui tue, entre guillemets, pour le TP Mazembe, c'est que sur certains matchs, ils ont été obligés de faire jouer leur gardien remplaçant, le Nigérian Shaibu, comme attaquant, tellement les solutions manquaient. Ce qui a une astuce amusante, mais qui montre un peu les limites actuelles du club.
Parce que là, on parle de la locomotive des clubs d'Afrique subsaharienne.
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas les accabler, en fait.
Ils ont
des circonstances atténuantes. Maniema a commencé par 3 matchs nuls cette campagne, mais s'est un peu essoufflé sur la fin. Donc, c'est dommage qu'ils n'aient pas gagné un de leurs 3 premiers matchs où ils avaient plutôt fait des bonnes choses. Ça leur a donné quelques points précieux en plus. Et puis les clubs des pays d'Afrique de l'Ouest sont souvent... L'ASEC avait fait beaucoup mieux, c'est un club historique. Là, le Djoliba, c'est plutôt un club habitué à jouer la Coupe de la Confédération. Bon, ils ont certaines limites qui n'ont pas pu dépasser sur cette campagne. Je crois que Abidjan, c'est un point, le Racing de... C'est un point.
Pourtant, ils ont mené contre Al Ahly ce week-end, me semble-t-il.
Oui, ils ont mené. Ils ont pris 3 d'Achour, le milieu défensif. Donc
alors, effectivement, on ne va pas accabler le tout-puissant Mazembe, qui reste à ce jour, et c'était il y a 10 ans tout pile, la dernière formation d'Afrique subsaharienne francophone, justement, à avoir remporté la Ligue des Champions. Depuis, c'est soit Mamelodi Sundowns, soit l'Afrique du Nord, tout simplement. Donc, Tunisie, Maroc, Égypte. On en est encore là. Il y a quand même un club soudanais là qui s'invite à l'Hilal, qui est premier de sa poule.
Il y a une présence francophone puisque ce club est coaché par Florent Ibengue, qu'on a longuement entendu sur cette antenne et même lu sur le site et qu'on suit
depuis très longtemps, bien sûr.
Un club un peu SDF, quoi, entre guillemets, qu'il doit gérer.
La situation.
Voilà, donc son mérite est d'autant plus grand. Après, il reste les habitués, Al Ahly. Donc en Afrique du Sud, les Mamelodi Sundowns sont quand même en danger. Hein. Ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore sûr. Le MC Alger est en danger aussi. Il pourrait passer à la trappe s'il ne fait pas un bon résultat contre Young Africans en Tanzanie. Ça ne sera pas évident. Voilà, donc il reste quand même du suspense. Mais la plupart des places sont déjà attribuées.
Et puis évidemment, Florent Mbengue qui est un rescapé des dernières grandes épopées congolaises en Ligue des Champions, la RDC et puis en club, la Vita Club 2014, cette finale perdue contre Sétif. Merci Patrick Juillard, Eric Rabessandratana, David Lortolari, Pierrot Guérin et bien évidemment le maestro Laurence Salerno. Radio Foot revient demain sur RFI avec Annie Gasnier aux commandes. En attendant, une excellente soirée à vous toutes et à vous tous.